Bonjour à tous et à toutes. Comme à chaque fois que je viens devant vous, avec un petit peu de stress, la première personne qui a une leçon à recevoir dans ce que je vais dire, c'est moi. Alors ce n'est qu'un préalable, mais je préfère encore le préciser avant de commencer cette courte méditation. Deuxième chose, c'est que ça va peut-être rassurer certains, ce sera pratique. Mais je ne vais pas trop parler de moi. J'ai cette histoire qui me vient en tête. C'est l'histoire de cette vieille dame qui était très pieuse. Et elle était reconnue pour ça dans son village. Et elle avait cet écriteau chez elle, « Jésus vit ici ». Et elle parlait tout le temps à ses voisins, à ses collègues, à ses amis, de ce Jésus qui vivait dans sa maison. Et à la rigueur, et à la fin, ça saoulait presque les gens qui étaient autour d'elle. Et un jour, elle a été désignée pour recevoir la reine chez elle. La reine allait devoir aller manger chez elle. Et donc, elle a tout préparé, elle a préparé un repas. Et ça a vraiment été formidable pour elle. Et elle était vraiment heureuse de recevoir la reine. Et suite à ça, ses collègues qui sont plutôt, ses voisins qui sont plutôt taquins et qui voyaient toujours cet écriteau « Jésus vit ici », lui demandent « Alors, mais tu dis que Jésus vit ici et que c'est la personne la plus importante chez toi, mais pourtant tu as reçu la reine. Alors, quel est vraiment l'invité le plus important que tu as eu chez toi ? Jésus ou la reine ?» La dame a réfléchi un petit peu et a répondu « L'invité le plus important que j'ai eu chez moi, c'est la reine. » « Alors, tu as vu ? Ce n'est pas Jésus la plus importante, la personne la plus importante chez toi. » Et elle a répondu, « Mais Jésus n'est pas un invité chez moi, il vit ici. » Dans le Nouveau Testament, la maison était un lieu de rassemblement pour les nouveaux chrétiens. Et en Actes, chapitre 2, versets 42 à 46, l'acte fondateur de l'Église, nous lisons, « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. » C'est bien ça. « Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous. » En fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Voilà l'exemple de l'Église primitive, l'Église des premières heures, l'Église des premiers jours. Et c'est aussi un exemple qui nous a été donné par Jésus qui a fêté la Pâque et institué la Sainte Cène dans une maison avec ses disciples. Et si on se rappelle bien, d'ailleurs, il a été accueilli dans une maison de quelqu'un qu'il ne connaissait même pas. Et nous avons des dizaines d'exemples dans les lettres aux églises, d'églises qui se rassemblaient dans des maisons et non pas dans un bâtiment extérieur. Alors, où est-ce que je veux en venir? Est-ce que je suis en train de dire qu'il faudrait abandonner notre bâtiment dans ce quartier qui craint de plus en plus? Non. Ce que je suis en train d'exprimer, c'est un encouragement à suivre l'esprit de l'Église primitive. L'Église des premiers temps est, à beaucoup de titres, celle que nous avons envie de prendre en exemple dans notre vie d'Église. Et c'est à raison, car dans un premier temps, c'est l'exemple qui nous est donné, ces églises de maison. De ceux qui les guidaient étaient les apôtres eux-mêmes, remplis du Saint-Esprit, et qui avaient reçu de Jésus lui-même ce qu'ils enseignaient. Ainsi, acte 2, l'acte fondateur de l'Église chrétienne, est un exemple pour nous, et ce à quoi nous devrions et pourrions ressembler ensemble en assemblée, nous qui ne sommes pas encore 3000. Alors, à ce stade, j'aimerais jouer un petit jeu avec vous, et je vous préviens, je vais tricher. Vous allez pouvoir lever la main si vous vous reconnaissez. Qui a invité quelqu'un chez lui ou chez elle la dernière année? Vous pouvez lever la main. Sur la dernière année, les 365 derniers jours. Si vous avez reçu quelqu'un chez vous les 365 derniers jours. Peu importe qui. Ben oui, quand même. On a reçu le facteur. Vous pouvez garder la main levée, n'ayez pas peur, je la garde avec vous. Qui a invité quelqu'un chez lui le mois dernier? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez baisser la main. Très bien, très bien. Qui a invité quelqu'un chez lui ou chez elle la semaine dernière? Dans la semaine. Dans la semaine. Qui a invité quelqu'un chez lui ou chez elle hier soir? Très bien. Et là, je triche. Parmi ceux-là, qui a invité un membre de l'Église chez lui ou chez elle? Hier soir. Donc nous sommes trois? Quatre? Nous sommes quatre à avoir gagné. J'ai triché. Alors oui, c'est vrai, j'ai triché. Parce que si je n'ai pas gagné seul avec Céline, mais probablement quand j'ai écrit ces lignes, je me disais que probablement nous ne serions pas beaucoup à avoir la main levée jusqu'au bout. Et je vais vous faire un aveu. Si je demande à ceux qui ne savent pas où j'habite, de lever la main, je sais que beaucoup d'entre vous lèveront la main. Alors je ne vous demande pas pour pas avoir honte et pour pas vous stigmatiser, je n'ai rien contre vous. Mais beaucoup trop de personnes ne sauraient pas où j'habite. Et cela, ce n'est pas normal. Maintenant, à vous d'imaginer le résultat de ce sondage. Combien de personnes lèverait la main si on devait compter tous ceux qui ne savent pas où vous habitez. Pourtant, comme ces chrétiens de l'Église primitive qui partageaient tout et se recevaient les uns les autres, nous sommes aussi appelés à vivre cette vie de service les uns envers les autres. Alors, boum, en Romains chapitre 13, Romains 12, verset 13, nous les avons pourvoyés aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. En quelques mots simples, au milieu de ces recommandations pratiques sur la vie chrétienne, Paul nous exhorte à l'hospitalité. Alors, qu'est-ce que l'hospitalité? C'est l'action de recevoir et d'héberger chez soi gracieusement quelqu'un par charité, libéralité, amitié. Et il est intéressant de remarquer que l'hospitalité ne se donne pas. L'hospitalité ne s'offre pas. Elle ne s'abandonne pas. Elle ne se prête pas. Elle ne s'achète pas. Mais l'hospitalité se pratique. L'hospitalité, ce n'est pas qu'un mot. Comme l'amour, elle se pratique. Et en parler ne suffit pas. Alors l'hospitalité, en quelques mots, c'est recevoir quelqu'un à manger, recevoir pour boire un café, boire un thé. C'est tendre la main à celui qui se sent seul. L'hospitalité, c'est accueillir le migrant qui est dans le besoin. Je pense à cet exemple lorsque je suis parti à l'étranger la première fois. J'ai visité une petite église et il n'y avait que des vieux. Et le culte a été d'un ennui, mais terrible, terrible. L'enseignement était bon, mais je me suis vraiment ennuyé. Les chants n'étaient pas terribles. Les personnes, bon, ça chantait pas très bien. Et à la fin du culte, moi, je pensais qu'à une chose, c'est rentrer chez moi, puis peut-être aller faire un foot l'après-midi. Et puis, une personne vient me trouver et me dit, mais qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Je fais, je vais sûrement flâner, je sais pas. Écoute, on peut pas te laisser comme ça, viens manger. C'est pas prévu, mais viens manger à la maison. Ça a complètement changé ma perception de l'Église. Cet accueil, cet amour, a largement effacé la piètre qualité des chants. Mais c'est ça l'Église. Alors nous avons le plaisir d'avoir notre frère Tony ce matin. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas forcément la peine de nous le disputer. Mais pour les quelques jours où il sera là, l'Église est invitée à le recevoir. En Hébreu chapitre 13, au verset 1 et 2, nous lisons « Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » C'est intéressant de constater le rapprochement de la persévérance dans l'amour fraternel et l'hospitalité dans ces deux passages. En effet, en recevant son frère ou sa sœur, on pratique l'amour en l'écoutant, en s'intéressant à lui ou à elle, à ses projets, ses inquiétudes du moment, mais aussi à ses sujets de remerciement, ses sujets de joie, etc. Lorsque l'on reçoit chez soi, on donne un accès à une partie de notre intimité, notre maison. Grande ou petite, comme il y avait sur les photos un château ou une cabane, propre ou sale, parquet ou moquette, volet ou vélux, votre maison est une bénédiction pour vous. Mais elle est aussi une bénédiction pour ceux et celles que vous recevez. Elle est une bénédiction non pas pour la qualité du mobilier, mais par la disposition de votre cœur. C'était pas dans l'ordre. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Lisons-nous en 1 Pierre chapitre 4, verset 9. La disposition de notre cœur lors de notre accueil de l'étranger ou de notre frère ou de notre sœur est aussi importante que l'invitation elle-même. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, nous enseigne Paul en Colossiens chapitre 3. Alors, dans le verset du jour, il y a cette annotation un peu spéciale, ces anges que nous aurions pu loger à notre insu sans le savoir. Dans la parole, on voit qu'à plusieurs reprises, des personnages comme Abraham ou Lot ont reçu des anges sans le savoir. Et ces bénédictions insoupçonnées qu'ils ont reçues, ces anges qui leur étaient inconnus, ce sont toutes ces rencontres que l'on n'avait pas imaginées et qui nous enrichissent. Il vous est probablement arrivé de découvrir une personne de l'Église en dehors de nos murs, en dehors de ces 2 heures de présence le dimanche matin, et de vous dire que vous aviez une image totalement différente de cette personne-là et que vous avez passé un bon moment en sa présence, que vous avez été bénis de sa compagnie. Cette bénédiction, c'est ce à quoi nous sommes invités, et c'est ce à quoi nous invite le Seigneur lorsqu'il nous exhorte à l'hospitalité. Et en plus, il nous exhorte à aimer en action et en vérité plutôt qu'en parole. Alors, garder notre maison accueillante, voilà en quelques mots le sujet de mon exhortation de ce matin. Mais avant de garder notre maison accueillante, je voudrais encore garder quelques mots pour parler d'une autre maison à garder accueillante. En acceptant Christ comme Seigneur et comme Sauveur, et lorsque nous avons décidé en conscience de nous faire baptiser, nous avons accueilli en nous le temple du Saint-Esprit. En 1 Corinthiens chapitre 6, nous lisons « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » La première maison à garder accueillante est donc notre cœur. Gardons notre cœur à l'abri du péché. Et plutôt que notre demeure intérieure soit embaumée de la grâce divine. Notre hospitalité première est celle à l'égard de notre Maître, que nous accueillons non pas une fois par semaine, non pas de temps en temps, mais tous les jours. Nous sommes dépossédés de nous-mêmes pour lui appartenir. Seulement là, ce n'est pas une partie de nous-mêmes que nous mettons à disposition, mais c'est toute la place, toutes les pièces de notre maison intérieure. Dans toutes ces différentes acceptions de la maison, que ce soit intérieure, physique, familiale, et même l'Église, c'est par la foi et l'obéissance aux commandements que nous conservons le caractère accueillant de notre maison. La foi est en effet la maîtresse de notre maison, comme le suggère Paul dans la lettre aux Galates, lorsqu'il écrit « Pratiquons le bien envers tous et surtout les frères en la foi ». Or, une foi vivante se nourrit de la prière, de la lecture de la parole. Jacques Rémy va en parler un petit peu tout à l'heure. Et notre foi vit de l'union à celui qui fait de notre maison sa demeure, afin, en retour, de nous accueillir dans sa demeure à lui. En Jean 14, nous lisons « Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place ? Quand je serai, allez-vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous serez aussi. » Alors, gardons cette parole et faisons de cette parole de Josué qui est la nôtre, et vous la connaissez, « Moi et ma maison ». Nous servirons l'Éternel. Amen.